révélé en milieu de semaine dernière, l'arrivée de José Manuel Barroso chez Goldman Sachs, la banque américaine, a soulevé une vague de protestations, mais d'ordre très différent. Pour certains, c'est en soi le passage de l'ancien président de la Commission européenne à une banque d'investissement qui pose problème. Il n'est certes pas le premier, mais prête ainsi le flanc, de façon caricaturale, à l'accusation d'être l'une de ces élites déconnectées au service de la finance plutôt que de l'intérêt général. D'autres se sont montrés plus nuancés. C'est le choix de Barroso d'aider spécifiquement Goldman Sachs à gérer l'après-Brexit qui est critiqué. L'éthique personnelle aurait dû guider le Portugais à refuser d'intégrer cette banque qui a largement participé à la crise des subprimes et s'est illustrée dans le maquillage des comptes grecs. La question est donc simple. En apparence, faut-il tracer entre public et privé une barrière complètement hermétique ou bien s'en remettre à des règles de bonne conduite? Politique et finance, les liaisons dangereuses, c'est notre sujet du jour. Et trois invités pour en parler. Jezabel Goubet-Soubeyran, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en économie à l'Université Paris 1 et vous êtes l'auteur notamment d'un ouvrage, Blabla Banque, le discours de l'inaction chez Michalon. C'était en 2015 et c'était sur la difficile, on va dire, le difficile encadrement du système financier et le rôle des banques. Aujourd'hui, en face de vous, Olivier Babot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Bordeaux et on peut dire aussi que vous avez été collaborateur de différents cabinets ministériels. Ça vous donne un regard, on va dire, du côté plus politique de la question. Enfin, on est au téléphone avec Sylvain Laurence. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'EHESS et l'auteur, et là c'est vraiment l'ouvrage qui nous sert pour ce soir, de Les courtiers du capitalisme, milieu d'affaires et bureaucrates à Bruxelles. C'était chez Agone en 2015 et donc évidemment c'est une enquête, c'est ça, de 5 ans dans les milieux, justement à l'intersection des milieux financiers et des milieux bureaucrates à Bruxelles.
Oui, voilà, enfin, c'est une enquête qui a un volet aussi un peu historique, un autre volet un peu statistique, et puis il y a une partie un peu plus de plongée, on va dire, d'observation dans les fédérations professionnelles, dans les business associations à Bruxelles qui représentent différents secteurs auprès de la Commission.
Très bien, bah écoutez, vous aurez l'occasion de nous faire part de votre expérience justement en la matière au cours de cette discussion. Mais d'abord, une première question à tous les trois. Est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur de la polémique autour de l'arrivée de José Manuel Barroso, pardon, chez Goldman Sachs? Après tout, c'est quand même pas le premier, Jezabel Goubet-Soubeyran.
Moi, je me réjouis de la polémique que ça suscite, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Et alors, cela étant, je crois qu'il ne faut pas réduire le problème, si vous voulez, à l'homme Barroso. Hein, c'est un problème qui va bien au-delà d'un homme. C'est un problème aussi qui va bien au-delà de l'éthique. Il ne s'agit pas de savoir si Monsieur Barroso va gagner plus d'argent chez Goldman Sachs, s'il a manqué d'éthique dans sa décision. Le problème que ça nous révèle, c'est un problème profond de dysfonctionnement de nos institutions. Là, si vous voulez, on est face à une porosité de plus en plus grande entre le secteur public, la haute fonction publique, qui normalement doit être la représentante incontestée de l'intérêt général, et le secteur privé, en l'occurrence le secteur bancaire et financier, qui parvient de plus en plus à imposer son intérêt à la collectivité. Donc c'est là le problème. Nos institutions ne peuvent pas fonctionner ainsi. Elles doivent être les représentantes de l'intérêt général.
Olivier Barbeau, cette porosité que décrit Jezabel Goubet-Soubeyran, vous diriez que c'est aussi le problème numéro un aujourd'hui?
Alors, cette porosité, elle est réelle, mais le problème probablement, c'est comment l'interpréter. Moi, je pense qu'elle est en partie, elle est en partie problématique, c'est vrai, mais elle est en partie aussi nécessaire. C'est là toute la difficulté, sans doute. Dans l'excellent livre de Pierre Rosanvallon en 2008, qui s'appelait La légitimité démocratique, il disait qu'il y avait trois défis à la démocratie, justement. C'était l'impartialité, la réflexivité, la proximité. Alors, l'impartialité, c'est évidemment ne pas être influencé par, pour dire, des lobbies particuliers, hein, des intérêts particuliers. Et puis la réflexivité, c'est aussi la capacité à, pourrait dire, interpréter le bien commun dans des décisions qui sont complexes. Et à cet égard, vous avez effectivement des décisions de plus en plus complexes et des hommes politiques qui ont besoin d'un savoir-faire, d'une compétence qui souvent vient du privé. Donc si on parle de porosité, on pourrait dire séquentielle, peut-être quelqu'un qui a travaillé avant ou qui va travailler après, je pense que c'est plutôt souhaitable, au sens où, au contraire, c'est ce qu'on reproche au contraire à nos hommes politiques aujourd'hui, de ne pas l'avoir assez. Après, sur le moment, ça s'appelle uniquement de la corruption. C'est autre chose. chose.
Sylvain Laurent, sur cette nomination, ce passage de José Manuel Barroso de la Commission européenne à Goldman Sachs, vous avez été surpris par l'ampleur de la polémique ?
Enfin, c'est pas la première fois qu'il y a ce type de transfert à un niveau de ce type-là. C'est-à-dire, on pourrait quand même rappeler que avant lui, Étienne d'Avignon, qui a été vice-président de la Commission entre 81 et 85, devient juste après président de la Société Générale de Belgique, puis vice-président de Suez. Jacques Santer, président de la Commission entre 95 et 99, entre au conseil d'administration de la holding GenMed dans la foulée. On pourrait multiplier comme ça les exemples, même dans les commissaires, sans rentrer dans les, juste en prenant les commissaires récents. Sim Callas, ancien commissaire à la transparence, a été engagé par le groupe Nortal, Nelly Cross, Merrill Lynch. Je pourrais multiplier comme ça les exemples. Donc en fait, ce qui est plutôt effectivement nouveau, c'est l'ampleur de la polémique, parce que l'information européenne en général a du mal à être reprise, à pénétrer l'espace public français, à être reprise. C'est très intéressant de voir que dans les travaux sur les sociologies du journalisme européen, par exemple, on voit bien toute la difficulté qu'ont les journalistes accrédités à la Commission européenne à vendre à leur rédaction nationale l'information européenne.
Bon. Alors comment expliquer que cette fois-ci, ça ait pris, en quelque sorte ?
Les choses ont pas mal évolué, alors notamment depuis déjà, je trouve, la crise grecque l'été dernier, qui a quand même fait beaucoup parler de l'Europe, et moi j'ai fait beaucoup de débats autour du livre. J'étais très surpris de voir que il y avait toute une appropriation quand même par une partie du public des questions européennes. On va vous parler d'Eurogroup, on connaît le nom du ministre des Finances grec, enfin tout un tas de choses quand même assez improbables, je pense, ces années précédentes. Donc il y a déjà cette transformation, que je pense qu'il y a une appropriation quand même de ces enjeux européens. Et puis par ailleurs, ce qui explique la polémique, c'est la dimension particulièrement symbolique du transfert, c'est-à-dire Goldman Sachs la banque qui par vraiment excellence est toujours citée comme étant une des banques qui a été prise dans la tombe de 2008 avec une responsabilité sans doute non négligeable. C'est la banque d'affaires la plus un peu emblématique de la dérégulation, donc c'est ça aussi qui sans doute explique l'emploi de la polémique. Mais comme votre première intervenante, je suis plutôt de ceux qui s'en réjouissent, dans le sens où ça permet de poser, je pense, une série de problèmes et de soulever des questions sur le fonctionnement de nos institutions. Enfin, ça, c'est plutôt un point positif.
Isabelle Coupé-Soubeyrou, il existe pourtant depuis le 2013 des règles encadrant ce qu'on appelle le pantouflage, ce passage du public au privé au niveau européen, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas partout. On a pu voir ainsi l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, 5 semaines après avoir été battu par Angela Merkel, se faire engager par Gazprom pour diriger la construction d'un gazoduc. Bref, il y a quand même des règles qui existent. Il y a une commission d'éthique au niveau européen, et c'est l'une des règles, c'est de fixer à 18 mois cette période entre le moment où on quitte ses fonctions publiques et celui où on peut être engagé dans le privé. Ce délai de 18 mois, il est pour éviter des délits d'initiés trop importants. Est-ce que d'abord, ça vous paraît ça le problème principal, c'est-à-dire cette question du délit d'initié? Et est-ce que 18 mois, c'est suffisant?
Alors, il y a effectivement des règles qui permettent de limiter le passage du public au privé. En revanche, ces règles sont très asymétriques parce que on n'observe pas les mêmes en ce qui concerne le passage du privé au public. Donc ça, si vous voulez, déjà, c'est un problème. L'asymétrie de ces règles. Ensuite, il y a la question de savoir, effectivement, si le fait d'instaurer un délai de carence de 18 mois pour permettre le passage du public au privé suffit. 18 mois, ça peut sembler un peu court. Après, le seuil, il sera forcément toujours difficile à établir. Mais 18 mois, effectivement, c'est court. Donc, je pense qu'il y a un problème quant à la longueur du délai, et surtout, me semble-t-il, un problème quant à l'asymétrie de ces règles. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas simplement le phénomène du pantouflage, d'accord ? Le phénomène du pantouflage, ça correspondait à ces personnes de la haute fonction publique qui allaient tranquillement terminer leur carrière dans le secteur privé. Aujourd'hui, ce que l'on observe, ce sont des allers-retours très fréquents entre le secteur public et le secteur privé. On parle, pour imager un peu cela, de portes tournantes, de revolving doors, D'accord, vous savez, ces portes qu'on emprunte à l'entrée des supermarchés ou des centres d'affaires, vous empruntez la porte, vous allez à l'intérieur du centre et puis la rotation se poursuit et vous allez à l'extérieur et ainsi de suite. Bon bien, là vous remplacez intérieur par secteur privé, extérieur par secteur public ou l'inverse, peu importe, tout ça est circulaire et vous avez ce phénomène de revolving doors qui caractérise la porosité dont on parlait tout à l'heure entre le secteur public et le secteur privé. Et parler de proximité, moi je veux bien, effectivement, la haute fonction publique. Alors quand je dis la haute fonction publique, je pense notamment en ce qui concerne le secteur financier, je pense aux autorités de régulation. Alors les autorités de régulation des marchés financiers ou les autorités de régulation des banques ont évidemment besoin d'une expertise pour apprécier finement les évolutions du secteur bancaire et financier. Cependant, si vous voulez, quand ces autorités de régulation ou quand les banques centrales recrutent d'anciens banquiers, il y a effectivement un problème de conflit d'intérêts, celui que vous mentionniez tout à l'heure. Et c'est pas un conflit d'intérêts d'ordre privé. Par exemple, lorsque nous avions, avec 150 économistes, alerté sur la nomination de François Villeroy de Galhau à la tête de la Banque de France, eh bien, il s'agissait pas d'un problème de conflit d'intérêts privé. Il s'agissait pas de dire, attention, peut-être que Monsieur François Villeroy de Galhau a encore des actions de BNP Paribas. Il s'agit bien évidemment pas de cela. Il s'agit d'un conflit d'intérêts d'un autre ordre, qui est que quelqu'un qui a travaillé longtemps dans le secteur bancaire est forcément imprégné des valeurs de ce secteur bancaire et ensuite sera davantage le représentant des intérêts de ce secteur que le représentant de l'intérêt général. Donc proximité, je veux bien, mais porosité, je refuse.
Olivier Babot, ce que nous explique Isabelle Coupé-Soubéran, c'est finalement que individuellement, on est tellement marqué par son passage, par exemple, dans une banque privée qu'on ne pourrait pas, quand on arrive dans le public, tout d'un coup se dire, voilà, changer finalement, être responsable et changer. Vous êtes d'accord avec ça ?
Moi, je crois que ça pose la question de ce qu'on attend, de ce qu'on peut espérer d'un homme politique, d'un responsable politique. Alors, tous les hommes politiques ont une histoire. Est-ce que la conclusion, ça doit être qu'il faut préférer un apparatchik qui a commencé à 21 ans comme attaché parlementaire et qui a monté tous les ou syndicaliste et qui a monté toutes les marches du pouvoir? Moi, je ne crois pas. Et je nie pas pour autant les problèmes, les problèmes de conflit d'intérêts.
Je suis pas non plus pour les apparatchiks.
Complètement. Le problème, c'est qu'on a forcément une histoire, on a forcément des centres d'intérêt. Je sais pas, si moi demain, ce qu'à Dieu ne plaise, je deviens ministre de l'Éducation nationale, je sais pas, je serais plus attaché à l'université, peut-être, parce que c'est là d'où je viens, vous voyez, sans doute. On a tous une appartenance. Mais quand on met quelqu'un par l'élection ou parce qu'on lui met, par un poste à une responsabilité, c'est qu'on croit quand même à une capacité à un moment donné, à dépasser, c'est peut-être ça l'ordre de l'éthique, à dépasser l'intérêt personnel et à essayer d'avoir une vision de l'intérêt commun. Et derrière, il est important que les institutions aient des instances de contrôle. Alors les règles sont peut-être pas parfaites, peut-être qu'effectivement le problème du délai peut se poser, qu'il peut y avoir des cas exclusif, mais il doit pouvoir y avoir des instances de contrôle qui doivent, on pourrait dire, garantir. Parce que là-dedans, qu'est-ce qu'on reproche ? Alors, soit il y a délit d'initié, auquel cas, c'est clair, ça c'est répréhensible. Soit il y a de l'influence. Qu'est-ce que vendent ces gens qui sortent d'un grand poste et qui vont se faire engager pour très cher ? C'est vrai. Ils vendent de l'influence, qu'on appelle le carnet d'adresse, qui n'est jamais mentionné comme ça, mais enfin, c'est la réalité. C'est quelqu'un qui peut téléphoner à des gens haut placés, il n'aura pas la barrière
déjà
de la secrétaire. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ça traduit une réalité sociologique. C'est que dans la vie, la plupart du temps, c'est vrai que si vous voulez faire avancer les choses, même dans les entreprises, il vaut mieux pouvoir connaître les gens et les taper. Elle est tapée directement en haut. Qu'est-ce que ça veut dire derrière si on dit que c'est la catastrophe absolue ? Ça veut dire aussi qu'on pense que derrière, les gens vont se laisser influencer, qu'il n'y a aucun garde-fou, qu'il n'y a aucune éthique chez les responsables. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir à mettre, et bien même s'il y a des contrôles, à mettre dans les gens qui sont à ce moment-là au pouvoir pour résister à ces influences, même si elles sont réelles.
Sylvain Laurence, il y a d'ailleurs un article dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est l'article 245, qui impose justement aux commissaires européens notamment un devoir d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, je cite là, quant à l'acceptation après cessation de certaines fonctions ou de certains avantages. C'est donc qu'il y a une forme de confiance dans la capacité individuelle de ces anciens commissaires notamment à faire preuve de délicatesse, cette notion qui reste un peu floue toutefois.
Alors au niveau européen, c'est normalement les nouvelles affectations être plus ou moins soumise à une sorte de comité d'éthique dont on a vu tout le problème qui était posé récemment par la personne qui en était en charge, donc par Michel Petit, qui a occupé entre 2009 et 2013 ce poste-là, alors même que lui-même était, alors qu'il était haut fonctionnaire, à côté, avocat associé au cabinet for Chance et conseiller des grands groupes comme Philippe Maurice, ce qui lui avait du coup une espèce de rappel à l'ordre du médiateur européen, une plainte avait été déposée, il a dû quitter son poste de responsable du comité d'éthique ad hoc chargé de superviser les conflits d'intérêts. Donc bien sûr que les textes existent, après il y a la façon dont des individus envisagent leur poste. Et ça, pour moi, ça pose la question de comment on fabrique des hauts fonctionnaires dans des instances européennes et comment on gère leur carrière. Et c'est la même chose au niveau national. C'est-à-dire quand on voit le directeur du Trésor, Bruno Bézard, qui vient de quitter à 53 ans la direction du Trésor pour un fonds d'investissement chinois, ce qui se pose d'ailleurs comme question, c'est aussi comment on gère en France les carrières des concours, les gens qui gèrent les carrières de ces personnes qui sont affectées, et comment on les gère aussi au niveau européen. Et qu'est-ce qu'on met derrière le terme de fonction publique? Comme ça a été assez bien dit, je crois, je pense qu'il faut poser la question de qui, comment on fabrique des gens qui sont censés défendre le point de vue de l'intérêt général. Bon, je pense qu'il y a, quelque chose là à réfléchir sur la façon dont on produit et garantit une fonction publique, alors européenne ou française, qui intègre ce point de vue de l'intérêt public. Et c'est un deuxième niveau, c'est dans la gestion des carrières, mais c'est aussi dans la fabrique de la décision. C'est-à-dire, le problème là avec Barroso et Zopos, parce qu'il est visible et médiatique, mais dans le processus de production d'une régulation européenne, c'est en permanence qu'il y a une forme de porosité, parce que c'est en permanence un système qui fait appel à des groupes d'experts auprès des différentes directions générales, à des comités européens de normalisation dans lesquels siègent des consultants qui sont issus d'entreprises. Et là, ce qui se pose, c'est qu'on a une institution qui est une institution censée défendre l'intérêt général, la Commission européenne, mais qui en permanence produit des législations et des régulations sur la base de données fournies directement par les milieux d'affaires et les milieux industriels. Et donc la question, c'est quelle est la capacité de cette administration à faire une synthèse qui ne soit pas simplement un copier-coller de ses propositions et à apporter son propre point de vue sur les éléments qui ont été apportés. Alors là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont dire c'est trop complexe et effectivement, il faut des gens compétents issus de la banque. Il n'y a que eux qui peuvent nous dire comment marche un produit dérivé. Et puis, il y a une autre école qui serait de dire quels moyens se donne une administration pour former et garder dans des carrières internes, sans forcément toujours passer par le privé, des gens qui seraient capables d'avoir un discours et un point de vue d'intérêt public sur des questions aussi complexes que des produits dérivés, sur la question des produits financiers. Et donc là, on se repose la question de qu'est-ce qui produit une forme d'influence. Et c'est aussi une asymétrie très forte en termes de capacité à se saisir de certains dossiers. Et là, je pense qu'il y a une question qu'il faudra qu'un jour l'administration européenne...
qu'elle se pose, évidemment. Sylvain Laurence, c'est très intéressant ce que vous dites là. On va y revenir, évidemment. Mais je suis frappé par la façon dont a commencé cette discussion, finalement très éloignée des réactions, la polémique initiale, puisqu'ici, en France, notamment, le président de la République a tout de suite placé la question sur le plan moral. Alors, Alexandre Ajaj, de l'équipe du Grain à Moudre d'été, a appelé un historien, Jean Garré, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire notamment des scandales de la République, et lui a demandé si cette approche morale était une spécificité française.
Oui, la culture française se défie de ces interactions entre le monde financier, le monde politique, que ce soit pour des raisons culturelles, la superposition d'une culture catholique qui se défiait du monde de l'argent, d'une culture républicaine qui s'était construite précisément en opposition avec ce qui s'était passé notamment sous le Second Empire. Il y avait des liens très étroits entre le système impérial et le monde économique. Et puis évidemment la culture de gauche qui a toujours été très, très défiante envers ces liens. J'ajouterais que le général de Gaulle, qui avait fait l'expérience du manque de patriotisme du patronat français pendant la Seconde Guerre mondiale, était lui aussi très défiant vis-à-vis de ces imbrications. Et donc, il y a une vraie culture française caractéristique, systématique, j'allais dire, qui se défie, et qui se défie à raison, je crois, des excès de ces imbrications entre politique et finance.
Olivier Babou, on a tort de se placer sur ce terrain moral, selon vous ?
Je pense qu'on a tort parce que ça ne permet pas de faire avancer le débat de façon très constructive, effectivement, et c'est probablement un biais culturel qu'on a en France. Une fois qu'on a invoqué l'immoralité, ou enfin, l'immoralisme, n'est-ce pas, des dirigeants, on n'est pas tellement bien avancé. En tout cas, c'est pas une bonne façon de convertir les gens à l'Europe par les temps qui courent. C'est un peu dommage. Ça veut pas dire qu'il faut nier les problèmes. Enfin, à mon avis, c'est pas la bonne porte d'entrée, non.
Isabelle Coupé-Souverain.
Oui, tout à fait d'accord. Je pense qu'on réduit considérablement le problème. Alors, c'est sans doute pratique, hein, en ce moment, de réduire le problème à ses aspects de moralité et d'éthique, parce que ça évite de s'interroger sur le dysfonctionnement profond de nos institutions et donc sur le dysfonctionnement profond de nos démocraties. Voilà, je pense que on a un problème de représentation de l'intérêt général actuellement. Et ce que disait Sylvain Laurent, c'est très très juste. Il faut vraiment se demander, et je crois qu'on n'a pas la réponse autour de cette table, comment est-ce qu'on fabrique de bons représentants de l'intérêt général. Effectivement, c'est pas une chose facile. J'ai pas la réponse. En revanche, j'ai quand même l'intuition assez forte, si vous voulez, que on ne fabrique pas de bons représentants de l'intérêt général en faisant fonctionner nos institutions, en faisant fonctionner des autorités de régulation des banques centrales avec des représentants d'un intérêt particulier qui est celui du secteur bancaire et financier.
Olivier Babeau, vous vouliez réagir?
Oui, je pense qu'on a vraiment on est là sur la question, on peut dire la plus sérieuse aujourd'hui, qui fait aussi débattre depuis un moment. On parle de statut de l'élu dans les propositions autour de l'évolution. Ça va aussi avec l'idée du cumul. Le statut de l'élu, c'est l'idée, par exemple, de faire un congé électoral pour les gens qui sont dans le privé, qui veulent pouvoir se présenter. Bah, si vous n'êtes pas dans la fonction publique, vous pouvez pas vous présenter parce que c'est très compliqué. Vous pouvez perdre votre job. Donc, le statut de l'élu, il pourrait vous permettre de normaliser ça et de permettre d'avoir des représentants qui sont peut-être plus représentatifs de la réalité de la population. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que derrière, il y a cette question du lobbying et de l'influence que vous pouvez avoir des gens extérieurs sur la décision publique. Moi, j'ai bien vu à l'Assemblée nationale, quand j'y ai un peu traîné mes guêtres, alors vous savez qu'il y a des lois maintenant depuis sur le lobbying et que la loi Sapin 2 veut durcir, etc. Il y a un peu une hypocrisie ou une naïveté sur le thème du lobbying. C'est qu'on ne veut voir dans le lobbying que le lobbying économique. Il n'y a que les entreprises qui sont censées faire du lobbying. Alors que la réalité, c'est que le lobbying, évidemment, il existe. C'est de l'influence, vraiment, au sens pour dire non péjoratif. Dire, chacun veut influencer dans son sens. Mais il existe aussi, il vient de la fonction publique, il vient des syndicats, il vient des syndicats professionnels, il vient évidemment du privé, des différentes entreprises. Et la réalité, c'est que l'homme politique, par nature, localement, ou au niveau national, ou au niveau européen, il est au milieu de toutes ces influences de gens qui, en permanence, veulent lui faire prendre des décisions qui vont dans son sens. C'est comme ça. Mais il faut être conscient de l'intégralité, de diversité des influences, y compris la fonction publique, d'ailleurs.
Oui. Oui, vous voulez réagir, pardon, Isabelle Coupé-Souverain. Oui, je voudrais donner après la parole à Sylvain Laurent, qui connaît bien ces questions du lobby.
Oui, bon, je suis d'accord avec ça, mais cela étant, tous les lobbies ne sont pas aussi puissants. Et je pense que
la fonction publique est bien plus puissante.
Enfin, le lobby bancaire et financier, en tout cas, parvient bien à faire représenter son intérêt. Non, le point sur lequel j'aimerais bien réagir, c'est un point évoqué par Sylvain Laurent tout à l'heure, concernant effectivement la technicité, la complexité des aspects, des questions bancaires et financières qui justifient que les autorités de régulation, que la Commission européenne fassent appel à des spécialistes du secteur pour adresser ces questions. Je crois qu'il faut... Il faut être conscient du fait, si vous voulez, que ce secteur bancaire et financier a aussi intérêt à surenchérir précisément dans la technique et dans la complexité des questions. A tout à fait intérêt à assommer la Commission européenne d'un certain nombre de questions, de réactions dans les moments de consultation. Il faut bien voir que cette technicité, cette complexité, c'est une sorte de protection, hein, pour le secteur bancaire et financier. Donc attention, parce que vous voyez, quand on justifie le besoin d'expertise par la technicité et la complexité, on fait un peu le jeu finalement du lobby bancaire. Je pense que on ferait mieux justement d'essayer de rendre ces aspects moins techniques, de veiller à une plus grande simplicité sans la rendre moins rigoureuse, veiller à une plus grande simplicité des règles prudentielles, par exemple, qui s'applique au secteur bancaire.
Sylvain Laurence, puisqu'on est sur cette question des lobbies, vous abordez dans votre ouvrage Les courtiers du capitalisme, milieu d'affaires et bureaucrates à Bruxelles, cette question évidemment, et notamment vous posez en quelque sorte la question de savoir s'il faut attendre des décideurs qui soient formés finalement par ceux qu'ils vont devoir réguler ensuite, si les régulateurs doivent être formés par les régulés en quelque sorte.
Oui, alors enfin, c'est vrai qu'il y a maintenant tout un tas de groupes d'intérêt qui proposent carrément de former, y compris les eurodéputés. Si vos auditeurs tapent EPFSF sur Internet, ils tomberont sur l'European Parliamentary Financial Services Forum, qui est un système assez original. C'est une association financée par les banques pour former les eurodéputés. Et effectivement, là, l'idée, c'est d'aller loin. C'est-à-dire, en gros, de partant du postulat que la matière serait complexe, il reviendrait au secteur bancaire de former les députés. Mais je voulais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur le fait que finalement, on oublierait que les ONG seraient aussi de lobby, ou que les citoyens aussi, ou que même les pouvoirs publics seraient aussi des lobbies. Enfin, moi, j'étais assez surpris, j'ai été auditionné pour la loi Sapin 2, de voir que ça ne posait presque plus problème à personne de considérer que des fonctionnaires qui ont passé des concours administratifs seraient considérés comme des lobbyistes. Hein. C'est à peu près la position derrière de la FCL, c'est de dire, oui, bon, ils lobbyent comme tout le monde puisqu'ils défendent leur point de vue de l'administration, mais enfin, je veux dire, on peut aussi avoir un autre point de vue qui est de dire, à partir du moment où des gens ont passé ce fil de concours administratif sont là pour représenter un bout de l'État, ils sont pas, leur parole n'est pas à égalité de n'importe quelle association qui s'est créée et qui défend un intérêt particulier, et on peut considérer qu'ils sont déjà un porteur d'une forme de point de vue de l'intérêt public. Et après, sur le fait de mettre sur le même plan des ONG et des groupes d'intérêt de type économique, forcément qu'on est obligé de séparer un petit peu les deux, ou alors on parle de choses qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'un groupe, pour moi j'ai pas mal travaillé sur les questions chimiques à Bruxelles, sur les questions chimiques on pourrait comparer les deux acteurs dominants, du côté ONG ça va être Greenpeace, et du côté on va dire business ça va être le CEFIC, qui est donc la Confédération Européenne des Industries Chimiques. Bon, ben si on creuse un petit peu sur les budgets, le rapport est de 1 à 10. C'est-à-dire, Greenpeace, leur budget, c'est 4 millions d'euros par an, ils ont 15 salariés. Le CEFIC, c'est 40 millions d'euros de budget par an et 150 salariés. Et d'ailleurs, le CEFIC, il y a 551 compagnies membres. Et donc, avec toute une expertise qu'on peut enrôler, projeter dans différents groupes d'experts, auprès de l'Agence chimique européenne à Helsinki, etc. Et donc, la question, encore une fois, c'est dans quel lieu se traitent des questions qui ont des portées politiques, et quel est le coût d'entrée pour y rentrer. Et si, effectivement, on a un système pour pouvoir se saisir de questions politiques, il faut avoir un doctorat en toxicologie, pouvoir prendre des positions en anglais et aller à l'Agence chimique européenne pour contrer la façon dont un dossier est déposé, porté par des représentants du CEFIC, vous avez un coût d'entrée qui est tel que vous n'avez personne. Alors même que les institutions européennes payent les billets d'avion pour aller à Helsinki participer à ces groupes d'experts, des stakeholders committee de l'Agence chimique européenne. Je veux dire, on vous paye le billet d'avion, on vous forme pour être un partie prenante, mais ça n'existe pas. Un intérêt citoyen qui pourrait se projeter spontanément en anglais au degré de toxicologie requis pour contrer ou vous donner un point de vue citoyen sur ce genre de choses. Et c'est pareil pour les questions financières. Pendant 2 ans, la Commission européenne a voulu faire émerger un point de vue citoyen sur les questions financières. Ils ont dû créer, mais vraiment sous perfusion, un watchdog, comme on dit en anglais, une ONG, qui s'appelle Finance Watch. Ils ont mis beaucoup de temps à trouver des gens qui soient prêts à tenir ce point de vue citoyen du point de vue technique dans les discussions à Bruxelles. Pourquoi ? Parce que sur certains sujets, si on considère que le coût d'entrée de la prise de parole citoyenne, c'est une compétence technique qui ne peut être issue que au secteur industriel ou secteur économique à réguler, forcément, on rajoute un coût d'entrée que peu de gens peuvent, voilà, qui a le temps, encore une fois, et ses compétences pour se projeter sur ce genre d'espace-là. Et donc là, ce qu'il faut faire très attention, c'est comment un système politique produit aussi des effets d'éviction et une incapacité des citoyens ordinaires à se projeter dans des espaces de décision, qui les concernent. Voilà. Et pour moi, le débat, le vrai débat, au-delà des revolving doors, il est vraiment là.
Du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Politique et finance, les liaisons dangereuses, c'est notre sujet ce soir au grain à moudre d'été avec 3 invités autour de la table, Josébel Coupé-Soubéran et Olivier Babot qui sont tous les deux économistes, et au téléphone Sylvain Laurence qui est sociologue. Sylvain Laurence qui vient de poser un problème qui est un problème fondamental, Olivier Babot, c'est la dépolitisation finalement des questions, qu'elles soient liées à la finance ou à d'autres problèmes, par leur extrême technicité. C'est vrai que c'est un argument qu'on entend souvent. La technicité, finalement, évacue le politique. On se souvient du fameux « There is no alternative » de Margaret Thatcher. Il n'y a pas d'alternative et on a l'impression qu'on est un peu là-dedans aujourd'hui. Est-ce que c'est un phénomène, justement, de trop grande importance du lobbying ou de trop grande porosité entre le privé et le public, voilà, d'arriver à cette situation où, finalement, on a l'impression de ne plus avoir d'alternative politique, véritablement?
Moi, je crois pas. Je crois qu'on est vraiment dans un monde qui, en effet, est plus complexe, où les interactions entre les éléments font que il faut prendre en compte beaucoup de choses quand on prend une décision. Quand on veut voter une loi, même au Parlement national, vous avez des administrateurs de l'Assemblée ou du Sénat, qui sont des gens extrêmement compétents, qui évidemment aident les sénateurs et les députés, qui ne sont pas toujours, il faut bien le dire, des grands spécialistes des lois qu'ils accompagnent. Hein. Parfois, ils s'y intéressent beaucoup, mais parfois pas vraiment. Donc, vous avez des gens d'ailleurs qui sont des spécialistes. Et donc, finalement, les lobbyistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient leurs notes, ils envoient leurs arguments, il y a une confrontation d'arguments. Et en effet, ce qui est très important, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit de ce point de vue-là, il est très important qu'il y ait une administration capable de faire la part de ces arguments qui sont échangés. Hein. Et c'est peut-être ça qui doit être développé. Je ne pense pas qu'on puisse éviter la complexité à un moment donné. Il y a des arguments qui doivent être entendus. Il y a des moments où l'industrie, ce n'est pas parce qu'elle est industrie qu'elle est forcément mauvaise ou méchante. Il y a des moments où elle peut dire des faits. Alors, il faut retenir que les faits et ne pas retenir les pétitions de principe. Et ça, justement, il faut avoir derrière une administration cohérente. Alors, est-ce qu'elle est suffisamment nombreuse? Est-ce qu'elle est suffisamment efficace, tant au niveau national qu'au niveau européen? C'est une autre question. La dernière chose, c'est sur la fonction publique. Supposer que parce qu'on est dans la fonction publique, on est forcément une voix qui doit être devenir complètement neutre, c'est contradictoire puisque précisément tout notre débat il vient du fait que le problème c'est que la décision publique elle est influençable.
Et donc, est-ce que vous diriez aussi que la fonction publique représente l'intérêt général naturellement, contrairement à...
Tous les travaux de l'école de Public Choice, de Buchanan et Tulloch, ça fait plus de 30 ans, ont montré que la décision publique, au bout d'un moment, favorisait les gens qui sont dans le système, favorisait les gens qui appartiennent à ce système, les administrations elles-mêmes qui finissent par vivre pour elles-mêmes. Et ça, il faut quand même, là encore, au bout d'un moment, essayer de diffuser ce savoir sur la façon dont l'État fonctionne. Ça veut pas dire que l'État est mauvais, ça veut dire qu'il faut le contrôler comme les autres.
Ouais, mais ça donne de bonnes raisons pour éviter... ça donne de bonnes raisons pour éviter justement cette porosité entre la haute fonction publique et puis le secteur privé, et là en particulier le secteur bancaire et financier. Si, comme ça vient d'être mentionné, nos dirigeants, la haute fonction publique n'est pas toujours naturellement la représentante de l'intérêt général, alors ne lui donnons pas l'occasion de l'être encore moins en favorisant cette porosité. J'aimerais bien revenir également toujours là sur cet élément de technicité, de complexité.
Oui, c'est vraiment au centre de la question, hein, véritablement, puisque c'est la justification, c'est même celle qu'a donnée José Manuel Barroso. On reproche aux hommes politiques ou aux décideurs de ne connaître que le monde politique, de pas assez bien connaître les sujets techniques. Voilà, moi je fais l'aller-retour.
Oui, mais il y a beaucoup de, je dirais qu'il y a beaucoup de rhétorique derrière cet argument là de technicité, de complexité. Et puis je le redis parce que ça me semble important. Les lobbies, et en tout cas pour celui que j'observe, le lobby bancaire et financier, cultive cette technicité et cette complexité pour ensuite mieux justifier sa présence dans les débats de régulation financière. C'est toujours très jargonneux, très technique. Et c'est bien sûr ce qui rend difficile l'exercice d'un contre-lobbying. Ça a été très très bien dit par Sylvain Laurence tout à l'heure. Alors, il faudrait qu'on puisse davantage, finalement, vulgariser ces sujets, en particulier les sujets bancaires et financiers. Et ça, c'est difficile. Hein. C'est difficile parce que pas grand monde n'a intérêt à vulgariser ces sujets. Même nous, universitaires, nous n'avons guère intérêt à le faire. Lorsque on publie un ouvrage de vulgarisation sur ces questions-là, c'est pas ce qui fait avancer nos carrières. Au contraire, on va plutôt nous encourager à publier des choses très techniques, mettant par exemple en évidence l'effet pervers de telle réglementation bancaire. D'accord ? Alors là, ça c'est vendeur, ça va faire l'objet d'une bonne publication dans une revue internationale bien classé, et ce faisant, eh bien, on aura plutôt fait le jeu consciemment ou le plus souvent inconsciemment du lobby bancaire.
Est-ce que finalement, Sylvain Laurence, la solution à ce que vient de dire Isabelle Coupé-Soubéran au problème de la vulgarisation, c'est pas de placer la discussion sur un autre terrain, un terrain politique, un terrain moral peut-être, on y revient, même si vous nous avez dit tout à l'heure que c'était pas forcément le plus pertinent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez analysé justement pour être très très concret le passage du pouvoir finalement du Parlement vers la Commission, c'est-à-dire de l'organe le plus politique représentatif vers un organe plus bureaucratique, on va dire. Sylvain Laurence.
Dans le système européen, je pense que le pouvoir, il a quand même été plutôt toujours du côté de la Commission, car d'après les textes, c'est là qu'est l'initiative des lois, et puis c'est là aussi que se fait le travail d'après.
Donc en amont et en aval, c'est voilà, la Commission qui a
niveau. Mais, la parole. Mais ce qui est vrai, ce qui est là où vous pointez quelque chose auquel je suis assez sensible, c'est que le problème, c'est que la conflictualité politique, si on la place au niveau des problèmes moraux, vous allez avoir du mal à trouver des dissensions avec une série de d'entreprises, parce que ces entreprises-là ont elles aussi un service de public affaires, ce qui très très souvent ne porte pas la conflictualité à ce niveau-là. C'est-à-dire quand vous lisez les papiers de position, les position papers, quand on voit les lobbyistes aux eurodéputés ou à la Commission quand on est en train de faire les premiers brouillons de directives, vous avez toujours un peu deux parties. Une première partie où on montre qu'on rejoint les préoccupations morales et politiques, où bien sûr tout le monde veut sauver des ours polaires et tout le monde est pour l'environnement. La question, c'est la deuxième partie, où on rentre vraiment dans les amendements, article par article, où des fois ça se joue à la virgule, ça se joue au taux, à un seuil, à un niveau vraiment où là, il y a une transcription technique du problème politique qui est posé. Et le problème, c'est qu'il y a une disjonction aujourd'hui entre les proclamations politiques, morales, sur lesquelles, bien sûr, il est évident qu'aucun grand groupe aujourd'hui ne va aller heurter de front l'opinion publique ou même les valeurs politiques, voire même vont les mettre en forme de façon relativement efficace, et puis cette transcription technique qui, elle, maintenant, enferme les enjeux politiques. Qui est capable de dire que la valeur limite d'exposition qu'il faut à un ouvrier qui produit du nickel dans une usine est tel taux et pas un autre. Et donc là-dessus, il y a un déplacement des enjeux politiques du côté de la sphère technique, mais c'est même pas de la sphère technique, c'est du côté y compris de la sphère scientifique. C'est-à-dire, là, quand vous regardez l'évolution des diplômes des gens recrutés dans les fédérations patronales à Bruxelles, vous avez une augmentation des docteurs en toxicologie qui est continue depuis 10 ans. Pourquoi on recrute des docteurs en toxicologie? Parce que ces gens sont capables de s'adresser directement à des fonctionnaires des agences chimiques européennes dans un langage qui est celui de l'écotoxicologie, et ainsi de suite pour les différents enjeux. Et donc là, pour moi, le problème, c'est comment on va arriver à redéplacer dans des lieux de discussion politique des décisions qui aujourd'hui sont transcrites dans des termes qui font appel à l'état de la littérature scientifique dans tel ou tel secteur ou dans tel ou tel domaine. Et là-dessus, effectivement, les académiques ont une responsabilité, mais pas simplement de vulgarisation. Ils ont aussi une forme de responsabilité dans la réflexion qu'ils doivent avoir par rapport à leur propre rapport au secteur privé dans tout un tas de domaines, en termes de PPP, en termes d'orientation des PCRD, etc.
Enfin, vous employez beaucoup d'acronymes qui échappent à nos auditeurs et à moi également.
Voilà.
Non, partenariat privé public, ça j'ai compris.
À avoir sur le fait que l'administration européenne est aussi un lieu où se sont distribuées des ressources pour faire de l'innovation technologique, de l'innovation scientifique. C'est pour ça aussi qu'on va engager des scientifiques. Un groupe comme EADS, effectivement, dépense chaque année 4,5 millions d'euros pour faire du lobbying. Mais dans l'autre sens, il touche 243 millions d'euros de subventions et de marchés publics, d'aide à l'innovation, d'encouragement à développer des partenariats avec des universités dans le secteur de la défense, dans le secteur de l'aéronautique, mais on pourrait faire ça pour beaucoup d'entreprises.
Oui, bien sûr.
Et donc là, bien sûr, la Commission européenne, être pour une entreprise, être proche de la Commission européenne, c'est pas simplement déréguler dans une logique libérale et de casser toutes les lois.
C'est aussi obtenir des financements par la suite.
Obtenir un soutien dans une compétition économique et mondialisée, etc. Donc il y a une logique d'investissement. On investit dans le lobbying aussi pour garantir une proximité à une instance qui fait de la norme et qui produit aussi des ressources pour la recherche. Et donc c'est pour ça aussi que les scientifiques ont une responsabilité et les intellectuels ont une responsabilité dans cette situation.
C'est bien entendu, Sylvain Laurence. Il nous reste plus beaucoup de temps, donc j'aimerais quand même faire réagir, parce que vous avez dit beaucoup de choses dans cette intervention et des choses très très intéressantes. J'aimerais faire réagir Isabelle Coupé-Soubéran et Olivier Babeau à ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas lequel des deux veut réagir. Isabelle Coupé-Soubéran.
Je crois qu'on a besoin d'une réappropriation citoyenne d'un certain nombre de sujets, et en particulier des sujets bancaires et
donc
financiers.
Donc sortir de la technicité encore.
Exactement,
une fois.
Et faire attention, ne pas se laisser leurrer par la technicité. Bien sûr que un certain nombre de ces sujets sont compliqués, d'accord, mais attention à ce que justement cette complexité ne soit pas cultivée à l'envi par ceux que ça sert.
Et est-ce que ce serait une solution finalement à ce qui est la base de cette conversation, c'est-à-dire le passage d'un personnage comme José Manuel Barroso, d'une haute fonction publique, j'allais dire, au privé Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Babeau?
En tout cas, c'est très intéressant que la discussion arrive là, parce qu'on est vraiment au cœur du problème démocratique aujourd'hui, sans doute. J'avais pris une phrase dans le livre qui s'appelle « Bureaucratie » de Grébert, qui dit « La bureaucratie permet de mettre le plus de distance possible entre ceux qui prennent la décision et ceux qui en subissent les conséquences. » Et que c'est un problème, enfin, une des choses dont on souffre aujourd'hui très probablement notre démocratie, c'est justement cette différence extraordinaire qui fait qu'on ne comprend plus les décisions qui sont prises. Et quand on ne comprend plus les décisions, c'est déjà qu'on n'est pas en démocratie directe, évidemment, mais elle est très indirecte, et qu'en plus, il y a un déficit démocratique terrible en Europe. Alors là, on a une cassure entre les décideurs et les gens qui est absolument immense. Et c'est celle-là qu'il faut réparer absolument. De toute façon, c'est l'enjeu démocratique, nationalement comme européennement.
David Graeber, donc vous venez de citer, qui est l'anthropologue, oui, et qui a écrit ce livre « Bureaucratie ». Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut arriver, ce sera ma dernière question, à deux mondes complètement, complètement étanches entre le public et le privé? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, parce que ça, c'était le modèle du silo traditionnel de la fonction publique. Vous y rentriez et puis vous sortiez les pieds devant, n'est-ce pas? Parce que vous n'étiez pas censé en sortir avant la fin. Je pense que c'est un modèle qui a vécu quand même, mais il faut essayer de mettre en place les conditions d'un nouveau modèle avec des allers-retours qui est effectivement un petit peu plus délicat, et je pense que c'est ça qu'il faut penser aujourd'hui.
Très rapidement, Sylvain Laurent, sur cette question de l'étanchéité entre le public et le privé.
Alors, je pense que le débat, il est aussi l'étanchéité entre une administration et la société en général. C'est-à-dire que là, le problème qu'on a aussi, c'est qu'on a une administration qui n'est pas un État. Ce qui a permis aux États-nations classiques de s'enraciner dans la population, c'est qu'à un moment donné, ils ont aussi puisé dans les classes moyennes, pour faire des instituteurs, ils ont puisé. Là, on a une administration qui recrute entièrement une forme de groupe social qui a accès à grandes écoles, plutôt européennes, collèges de Bruges, etc. Et donc, si on veut, à un moment donné, que soit importé dans cette administration une vision de ce qu'est l'intérêt public plus général et plus semblable à la société, les questions qu'on a posées tout à l'heure, mon collègue, sur la question de la représentativité des élus, on pourrait aussi les poser sur la question de la représentativité des fonctionnaires. Je pense que ce qui permet aussi une légitimité se construire pour une administration, c'est sa capacité, à un moment donné, à prendre assise dans une société dans son ensemble. Ce qui est loin d'être le cas pour la Commission européenne, qui explique aussi son déficit de
légitimité
chronique.
Bien évidemment. Coupé Soubéran sur cette question de l'étanchéité. Pour terminer,
on revient à notre point de départ, finalement. Hein. Je dirais que proximité n'est pas porosité. Je crois qu'il faut faire attention à ce que, à la tête des autorités de régulation, à la tête d'institutions censées représenter l'intérêt général, ne soient pas placées des personnes dont on peut douter de la représentation, dont on peut douter de l'intérêt service.
Mais, comment empêcher finalement que un fonctionnaire ou fonctionnaire en fin de carrière puisse trouver dans le privé une fin de carrière.
Mais vous l'avez dit, il faut des règles, il faut penser à des délais de carence, il faut rendre plus symétrique l'encadrement du passage du public au privé, du privé au public, avoir des délais de carence et puis réfléchir à la façon de former effectivement une haute fonction publique qui ait une haute conscience des problèmes économiques et financiers de la société, mais qui soit représentante de l'intérêt général.
Merci beaucoup, Jézabel Coupé-Soubéran. Je rappelle Blabla Banque, le discours de l'inaction, c'est chez Michalon. Merci aussi à vous, Olivier Babeau. J'ai pas d'ouvrage sous les yeux de vous. Voilà, La nouvelle ferme des animaux, et j'arrive pas à lire le nom
des belles lettres.
Les belles lettres, édition évidemment. Et Sylvain Laurence, Les courtiers du capitalisme, milieu d'affaires et bureaucrate à Bruxelles, c'est chez Agone. Il faut également que je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, Alexandre Agège, Aurélie Marcet, Catherine Donnet et Tanguy Omri. À la réalisation aujourd'hui, c'était Anne Despelchin, et à la technique, Nicolas Delmas. Le grain à moudre d'été, c'est à réécouter et podcaster sur franceculture.fr.